Nous, on va littéralement prendre la route sur une moto, enfin sur plusieurs motos. Et vous, que faites-vous en ce moment? Vous allez où? Vous faites quoi? Dites-nous où va votre route. Laissez-nous un message sur le répondeur de France Inter, 01 56 40 68 68, comme aujourd'hui Chantal de la Savoie, qui nous téléporte à Prague.
Je suis allée il y a quelques années à Prague. Et j'ai trouvé que cette ville vit par la musique. C'était extraordinaire. On a des concerts à n'importe quel moment de la journée. Il y a des salles, il y a des églises, il y a des... C'est vraiment formidable. Ces concerts perpétuels pendant plusieurs jours, ça marque beaucoup.
France Inter, chacun sa route.
Chacun sa route, enfourche une moto et s'en va découvrir les grands et les petits espaces aujourd'hui. Évadons-nous en cet été 2020. Notre invitée a fait le tour du monde et elle a voyagé presque partout pendant des années. Elle a aussi fait le tour de France sur une cylindrée plus ou moins grosse. Dans son dernier roman, elle est la vieille qui conduisait des motos, à lire aux éditions Payot Voyageurs. Dans son premier roman, en 1973, elle était plutôt une demoiselle sur une moto. Ça se tient, finalement. Elle dit « Le bonheur est dans l'errance » et pour lancer notre conversation, elle a amené un objet, un tout petit objet.
Chacun sa route. Élodie Font, sur France Inter.
Bonjour Anne-France Daudeville.
Bonjour.
Vous avez ramené quoi alors avec vous ?
J'ai ramené mon avatar. Il est bleu, comme dans le film Avatar. Il est sur une moto rouge. Alors, il est tout petit, alors qu'Avatar, ils étaient énormes. C'est un schtroumpf. C'est un schtroumpf à moto.
C'est un schtroumpf à moto. Tout petit, j'avais jamais vu un schtroumpf à moto. Il vient d'où?
Je sais pas, c'est des copains qui m'ont offert ça un jour. Et je trouve que ça me correspond tout à fait. C'est-à-dire que une fille bien élevée comme il faut, bourgeoise, sur une moto, ça se fait pas. Dans ma génération, je suis quand même une vieille dame maintenant. Une fille qui arrive toute seule sur une moto en Afghanistan, bah c'est un schtroumpf, hein, parce que franchement, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît. Et comme les schtroumpfs, c'est toujours vachement bien accueilli.
Ah ouais?
Ouais. J'ai partout, le fait d'être une fille seule sur une moto, vous pouvez pas savoir, ça a l'air bête de dire ça, mais la gentillesse. Vous savez, quand on dit trop bon, trop con, eh ben non, la gentillesse qui s'est mise en place partout où j'ai voyagé, quasiment partout, c'est génial.
Vous êtes une voyageuse, une multi-voyageuse. On va remonter d'abord, si vous le voulez bien, dans les années 70. Votre premier voyage qui vous emmène jusqu'en Afghanistan, vous en parliez à l'instant, alors que peu de temps avant, vous travailliez pour une agence de publicité. Quel a été le déclic pour vous lancer dans l'aventure et envoyer tout promener?
Plein de déclics. Plein de déclics. Par exemple, quand j'étais à l'agence Havas, qui était encore rue de Richelieu à Paris à cette époque-là, au mois d'août, on m'a donné ma chance et on m'a dit « tu vas nous faire une campagne pour envoyer les Français en vacances au Maroc ». Je ne connaissais pas le Maroc. Mais pour être sûre, on met un autre groupe là-dessus, tu vas voir. Bon, d'accord. Et j'ai imaginé un pays dont je rêvais. Donc j'ai fait des annonces qui disaient « Au Maroc, les roses fleurissent dans les jardins des hôtels, même des petits hôtels. Au Maroc, quand vous demandez votre route, on ne vous l'indique pas, on vous conduit. » Etc, etc. Donc j'ai rêvé un pays. Et c'est ma campagne qui a été choisie. « Ah, j'ai dit, c'est génial, je vais aller la vendre au Maroc. » On m'a dit « Non, non, tu vas pas. »« Ah bon, pourquoi ?»« Bah, t'es une fille. Et alors ?» Bah oui, mais enfin, tu te rends compte, t'es en mini-jupe, etc. Avec ce que tu me payes, je peux m'acheter une jupe un peu plus longue. Non, non, non. Du coup, j'ai volé la campagne. Et on m'a dit, tu rends la campagne. Non, je veux mon billet d'avion. Tu rends la campagne ou on te fout à la porte. Eh bah, ben, vous perdez le budget.
Donc, et comment ça, vous volez la campagne?
Bah, vous savez, c'était sur papier. C'était des dessins. Ah. Il n'y avait pas d'ordinateur à cette époque-là. C'était des modèles uniques.
Ah oui, donc si vous partiez, la campagne s'en allait avec vous, quoi.
Eh ben voilà.
Ah, c'est ça, ok.
Bon, en même temps, c'était des gens qui avaient beaucoup d'humour et ils ont bien compris que c'était du jeu tout ça. Mais n'empêche que j'ai eu mon billet d'avion. Je suis allée à Rabat, on a vendu la campagne. Et puis je suis descendue à Marrakech, où j'avais encore des amis d'amis d'amis. Je suis arrivée sur la place Jemaa el Fna, c'était le vendredi. Et c'était magique, parce qu'il y avait tous les charmeurs de serpents, les danseurs, les conteurs qui étaient là. Il n'y avait pas encore toute l'installation touristique française qui avait tout envahi. Je me suis retrouvée sur une autre planète. Et puis, les amis m'ont emmenée camper dans la vallée de la Tessaout le lendemain. Pour la première fois de ma vie, j'ai dormi en plein air dans un massif de menthe. C'était un voyage sublime. Et ça, c'était le ver dans le fruit. Et puis après, je me suis rendu compte que je me réveillais la nuit parce que j'avais enfin trouvé l'accrochage pour les yaourts machin, les trucs. Enfin, ça devenait absurde, quoi. Et il y a un moment où je me suis dit que je payais mon argent trop cher. Alors, j'ai tout envoyé péter.
Vous vous êtes dit, en fait, quand je suis en vacances, sur ma moto, je me sens bien. C'est un mois dans l'année.
Voilà.
Pourquoi me sentir bien un mois dans l'année quand je pourrais me sentir bien tout le temps?
Ah voilà.
C'était ça l'esprit?
En fait, j'étais bien tout le temps, mais j'étais très très bien quand je partais sur ma moto en septembre.
Vous étiez mieux?
J'étais super bien, j'étais heureuse, vraiment complètement heureuse. Avant, j'étais juste heureuse. Mais là, c'était le bonheur. Et j'ai qu'une vie. Et quand je vais mourir, je vais avoir 11 parties de ma vie qui seront agréables. Et une seule qui est dans les nuages. Non, non, ça va pas. Je suis dans un pays où on mange 3 fois par jour. Je suis pas en survie, je suis en vie. Donc ma vie, c'est une œuvre d'art ou pas.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la moto?
Je suis beaucoup trop bête pour avoir le permis voiture. Et en fait, c'est la CGT. Imaginez-vous, en 68, donc j'étais encore à l'agence Havas, je louais un appartement dans le 5e arrondissement. Il n'y avait plus de transport, donc il fallait que je rentre à pied. Et c'était compliqué. Donc je me suis dit que la CGT ne m'aurait pas deux fois. Et comme je n'avais pas de permis, je suis allée dans un magasin de moto.
Ça fait penser à tous les gens qui se sont mis au vélo récemment, en l'occurrence avec la grève d'il y a quelques mois. Et ce que l'on a vécu entre les deux, vous vous êtes dit moto.
Alors, comme j'avais pas le permis, j'ai acheté un 50 cm cube Honda qui ressemblait à une moto, mais il fallait démarrer en pédalant et elle plafonnait à 60 à l'heure, 70 dans les descentes. À cette époque-là, il y avait pas de casque, donc j'avais un petit chapeau de laine sur la tête. Et j'ai fait mon premier voyage en septembre où je suis partie pour voir la Méditerranée que j'avais jamais vue. Et tous les copains à l'agence m'ont dit « Oh, mais t'y vas toute seule ?»« Oui, oui, mais fais pas ça, c'est dangereux, tu sais. »
Anne-France d'Hauteville, une des premières femmes à être comme ça, enfin la première même à avoir fait le tour du monde en solitaire,
en
moto. Justement, on a retrouvé des archives de ce que c'était d'être une femme.
« Sors pas la nuit, le loup-garou va te manger. Méfie-toi, jeune fille des mondes obscurs. » Dès que le soleil se couche, enferme-toi dans ta chambre. Dehors, tu risquerais de rencontrer les sorcières sur le chemin du sabbat. Un vampire pourrait te voler ta vie. Et si les méchants t'assassinaient au coin d'un bois? Faut être un homme pour oser affronter le monde de la nuit.
Vous vous reconnaissez ou pas?
Je reconnais la voix, mais je ne sais plus où c'était.
C'était sur TF1, Le Regard des Femmes, en 1982. Dans une émission. Ça remonte un peu. Ça remonte un peu à Anne-France d'Hauteville. Mais ce que je voulais que l'on raconte, en tout cas que vous nous racontiez, c'est qu'est-ce que c'était d'être une femme dans les années 70 et au début des années 80 sur votre moto? Est-ce que ça vous a servi ou desservi?
La question ne se pose pas. La question, c'est que quand je suis heureuse, je continue. Quand je suis pas heureuse, j'arrête. Être une femme dans les années 70, oui. Par exemple, j'allais à l'agence à moto et à un moment donné, donc, je louais un studio à côté de l'Étoile. Et j'étais un feu rouge le matin. Une vieille dame m'a attaquée à coups de parapluie en disant « C'est honteux ce que vous faites, mademoiselle, c'est honteux !» Voilà, ça c'était ça. Roger Frey, qui était ministre de l'Intérieur, avait dit que tous les motards sont des voyous ou des fils de famille. Et les taxis, à cette époque-là, essayaient de nous virer. On était sur leur territoire. Les camionneurs ne supportaient pas les motards sur la route. Entre-temps, quand même, j'avais passé mon permis, j'avais des motos qui allaient plus vite, donc ça me permettait de partir. Mais je me souviens d'un jour, rue Michel-Ange, où j'ai été poursuivie par un gars qui était complètement ivre de rage de voir une fille sur une moto et qui a réellement essayé de m'écraser. J'ai réussi à le virer pas très loin de la maison de la radio en prenant un sens interdit et en filant par les quais.
Donc c'était dangereux?
Ça pouvait l'être. Parce que c'était une société qui basculait brutalement du 19e siècle où la femme doit être neutre, transparente et à pied. Et brusquement, il voyait une créature à califourchon, imaginez-vous, sur un outil d'homme. au propre et au figuré, d'ailleurs.
Oui, et même parmi les autres motards, j'ai lu que quand vous avez fait cette première course qui vous a emmené jusqu'en Afghanistan, alors à l'origine, vous n'alliez pas jusqu'en Afghanistan et c'est vous qui avez poussé la route.
On était partis à 105 de Paris, c'était un rallye qui allait jusqu'à Ispahan en Iran. 11 ont dit qu'ils allaient en Afghanistan, donc je les ai suivis. 5 au Pakistan et j'étais. Puis après, on pouvait plus aller plus loin. Il fallait des papiers particuliers pour passer en Inde. Donc ça a été le premier voyage, oui.
Mais on vous a pas cru.
C'est-à-dire que à la suite d'histoires complètement basses, on a raconté que j'avais voyagé dans un camion. Voilà. Que j'étais.
Ça c'est parce que vous étiez une femme.
Oui, parce que j'étais une femme et puis surtout parce que, comme je me construisais une nouvelle vie à partir de ça, j'ai écrit mon livre, on a parlé de moi, je ne me suis pas mise au service du groupe. Je ne me suis pas mise au service du groupe, j'ai roulé pour moi et ça c'était un crime impardonnable. Donc vous vous rendez compte, être une femme, être sur une moto, en plus c'était un tank, c'était une 750 Guzzi, quand elle penchait je ne pouvais pas l'empêcher de tomber, quand elle était par terre je ne pouvais pas la relever. Donc c'était.
J'ai lu que vous disiez ça d'ailleurs, que après ce premier voyage, vous vous êtes dit déjà, ce qu'il faut que je sache faire, c'est relever ma moto.
Oh oui. Et vous savez pourquoi? Je me suis, au retour du Pakistan, on n'était plus que 5, et on est passé par donc de nouveau l'Afghanistan, qui est un pays que j'ai adoré, et le nord de l'Iran avec une piste de tôle ondulée au nord du désert. Et les autres commençaient à m'ennuyer, donc je partais seule le matin et on se retrouvait le soir. C'était de la tôle ondulée, il faut la prendre relativement vite pour que la moto saute d'une ondulation à l'autre. Et à un moment donné, je vois une plaque de sable effroyable, j'aurais dû accélérer, j'ai pas accéléré très fort. La roue avant s'est pliée et je suis tombée. Et cette moto que je pouvais pas relever, qu'est-ce que je fais? Je m'assieds dessus, j'attends. Arrive un camion que j'arrête, à grand geste, 3 types descendent. Turban sur la tête, costaud. Par geste, je leur demande de relever la moto. Ils voient que je suis une femme, ils poussent un hurlement de terreur, ils sautent dans le camion et ils foutent le camp. Voilà. Ne jamais rester seul dans le désert parce que
jamais.
La nuit arrive et là, il fait froid, etc., etc.
Puisque vous parlez d'Afghanistan, est-ce que vous en avez encore des souvenirs aujourd'hui? Des souvenirs assez précis?
Toute ma vie, je serai assise sur la tête du grand Bouddha de Bamiyan qui n'existe plus.
Alors attendez, on a un son qui nous emmène en Afghanistan.
C'est vrai ?
Si on ferme les yeux, est-ce que vous pouvez nous emmener avec vous à Kaboul ?
Oui. Je suis à Kaboul. Je suis aussi à la frontière en venant du Pakistan. Où je passe la douane, tout le monde me laisse passer. On me frappe sur l'épaule, very brave woman. Un homme vient me chercher, m'emmène à une voiture. Dans la voiture, il y avait une femme avec un bébé dans les bras. Il a pris le bébé, il l'a posé dans mes bras. Il m'a offert 5 minutes, la chose la plus précieuse de sa vie, pour m'honorer. Voilà.
Et ça ressemble à quoi, la ville?
Kaboul? Kaboul, c'était une ville très étrange parce que, vous savez, les Anglais ont essayé d'occuper l'Afghanistan. Ils y ont passé quelques années, ils ont construit des maisons. Donc il y a des quartiers qui ressemblent à Cambridge et puis il y a des quartiers qui sont complètement l'Orient. Mais l'Orient bordélique que j'adore. Et en même temps, un voyage dans le temps. Le long de la Kaboul River, par exemple, il y avait un espèce de bazar, on achetait tout, n'importe quoi. Et il y avait en particulier un dentiste. Mon grand-père alsacien, du côté de maman, était dentiste. Eh bien, ça se passait en 72. Il avait une roulette à pédales en métal, comme celle de mon grand-père dans les années 20. Et il soignait les gens avec une roulette à pédales. Vous vous rendez compte? Donc il y a cette espèce de voyage dans le temps aussi. Et puis, il y avait surtout ces gens qui Moi, j'adore les Afghans. On a l'impression qu'ils sont sur coussin d'air. Ils rebondissent quand ils marchent. Ils sont fiers d'eux. Et le dernier des pauvres en Afghanistan est un empereur sur son territoire qui vous accueille avec générosité. Et là, à Paris, quand je rencontre des Afghans réfugiés, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une tablette sur moi et de leur montrer des photos de leur pays avant qu'ils ne soient nés. Et vous ne pouvez pas savoir l'émotion. C'est un pays où le mot « ensemble », « être ensemble », ça a une réalité, mais une puissance extraordinaire.
Anne-France Daudeville est notre invitée dans Chacun sa route jusqu'à 15h sur France Inter. Et puisqu'on parle de la vie de nomade, je vous propose que l'on aille ensemble dans le Sahara, bien accompagné des Touaregs du groupe Tinariwen, à Saute sur France Inter. La vieille qui conduisait des motos, Anne-France Daudeville, est notre invitée jusqu'à 15h sur France Inter.
This lady is a contemporary French adventurer.
Elle s'appelle Anne-France Daudeville, licenciée en lettres.
She tours the world on a motorbike and writes about her experiences.
Elle a tout envoyé au diable pour sillonner l'Iran et l'Afghanistan à motocyclette.
Her name is Anne-France Daudeville.
J'ai fait le tour du monde sur un 100 cm cube, qui théoriquement doit tenir 10 000 km, dit-on. Non seulement la moto a fait le tour du monde, mais elle roule encore.
Anne-France Daudeville, c'est une épopée toute à la gloire de la moto.
Les gens qui n'ont jamais vu une femme sur une moto, alors là c'est vraiment un truc qui tombe du ciel, sont tellement ahuris que quand vous débarquez toute seule sur une moto, ils sont là, oh, et vous ouvrent toutes les portes.
ça en fait des reportages sur vous, Anne-France Doudeville?
C'était un peu le deal, c'est-à-dire que les marques me prêtaient la moto. Je ne voulais surtout pas prendre d'argent pour être propriétaire de mon information. Si la moto était, ne valait rien et que je sois obligée de dire qu'elle est bonne à quelque chose, c'était ça va pas. J'ai de la moralité. Et en échange, évidemment, je passais à tout ce qui était possible, de radio, de télé, en route et au retour aussi. C'était au fond des essais de route, comme font les journalistes moto, mais qui duraient plus longtemps.
C'est quoi la différence entre voyager en ayant justement comme ça le projet ensuite d'en faire un livre, le projet ensuite d'aller en parler dans les médias, et voyager pour rien?
C'est compliqué comme question. J'ai besoin d'être absolument seule. Je ne me suis jamais mariée, ou alors très souvent, mais pas de la bonne main. J'aime pas beaucoup la notion de famille. J'ai besoin vraiment d'être seule. Et donc, j'ai besoin aussi de l'inverse et de partager. Et le partage à travers ce qu'on écrit, c'est un partage très précieux. Si ça ne tournait qu'autour de moi, ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire qu'à la fois, plus je suis dans ma solitude, et plus il y a une conscience collective qui se construit et qui grandit de plus en plus maintenant que je suis plutôt dans le dernier quart d'heure de ma vie. Et je trouve ça très passionnant parce que ça me permet peut-être de mettre ensemble les pièces du puzzle. Et c'est à ça que je peux travailler maintenant.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de faire cet exercice d'une manière solitaire?
Peut-être parce que j'ai pas assez d'énergie pour être à la fois amoureuse, élever des enfants, m'occuper de mes chats, faire le ménage, imaginer ce que je vais leur donner à bouffer le soir, râler près de la sécurité sociale parce qu'ils ont oublié le remboursement, aller voir l'école des... Oh là 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 là, non attendez, moi je suis bonne qu'à une chose, écrire mes bouquins et puis avoir des bons copains autour de moi.
Mais la moto en solitaire, pourquoi en solitaire la moto?
Alors, si je partais avec quelqu'un, ça serait un amoureux, donc il me prendrait une grande partie de mon énergie et de mon attention. C'est toujours ça que je n'ai pas pour le pays et pour les gens que je vais croiser. Si je pars avec un groupe, je suis dans un petit morceau d'une autre conscience qui n'est pas la mienne. Quand je suis seule, je suis le schtroumpf, effectivement, parce que je suis dans l'absolue différence, dans l'absolue... impossible pour les trois quarts des pays que je traverse, et parce que je dépends de tout le monde. Et parce que je dépends de tout le monde, je ne peux pas rester fermée. Au fond, mes voyages, quand je suis seule, c'est « tu es qui, toi ?» Et « tu es qui, toi ?» J'ai compris qu'il n'y a pas d'humain s'il n'y a pas de la curiosité. D'ailleurs, je me demande si les chats ne sont pas des humains, parce qu'il n'y a pas plus curieux qu'un chat aussi, au fond.
Et quelle relation vous avez, dans ces cas-là, avec votre moto ?
Mais aucune. Est-ce que vous parlez avec votre cocotte minute, vous?
Ah, moi, je parlais à mon scooter, en l'occurrence.
Et ça va mieux?
C'était assez agréable, oui. J'avais l'impression qu'on était compagnons.
Vous savez, après l'émission, il faudra peut-être qu'on parle.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent à des objets, ou qui parlent surtout à des objets aussi importants qu'une moto.
Non, c'est une mécanique. J'ai du plaisir à me promener sur la moto, mais franchement, si j'en suis à me dire que je vais discuter avec une moto, c'est que...
C'est vrai?
Ah oui, non, vraiment.
C'est pas un déchirement quand vous vendez ou quand vous donnez ou quand vous redonnez une moto?
Non, pas une seconde.
Ah, c'est rigolo. Parce que j'imagine, par exemple, quand il pleut ou quand vous vous retrouvez dans une situation un peu périlleuse et vous êtes que vous deux, quoi, l'objet et vous.
Non, moi je suis toute seule avec une mécanique. C'est mes chaussures, je suis beaucoup plus souvent dans mes chaussures que je ne suis avec ma moto. Et mes chaussures, en plus, me protègent extraordinairement de tout dans quoi je pourrais poser les pieds, etc. Je ne vais quand même pas discuter avec mes chaussures.
C'est vrai, ça ne donne peut-être pas la même impression, les chaussures et un objet comme un vélo, une moto. En tout cas, dans les années 70, Anne-France Doudeville, vous partez ensuite pour 10 ans de voyage presque ininterrompu. Vous allez dans à peu près tous les pays du monde.
Non, en réalité, non. Il y a des pays... Alors, j'avais essayé d'aller en URSS, c'était absolument interdit, on n'avait pas le droit de s'y promener, alors que maintenant on peut. L'Afrique noire, je ne suis pas descendue en Afrique. En fait, je voulais faire un voyage, et un voyage filmé du Cap au Caire. Et j'avais rencontré un directeur du monde de l'image, qui m'a écouté et qui m'a dit « Oui, non, c'est un projet très intéressant. » J'ai dit « Merci beaucoup, monsieur. » Donc, si je comprends bien, vous voulez vous faire payer des vacances par mon organisation. Ah, j'ai dit « Oui, monsieur, c'est tout à fait ça. Ben, écoutez, on se téléphone. » Puis je suis sortie, j'ai claqué la porte en me disant « Mais bête comme ça, c'est pas pensable. » Donc, je suis pas allée en Afrique. J'étais en Amérique du Sud. J'ai passé 7 mois en Amérique du Sud. Et là, le Pérou est aussi l'un des pays...
Un de vos
pays...
rêves.
Oh, j'ai adoré ce pays aussi. Les 3 pays, c'est l'Afghanistan, le Pérou et l'Australie. Voilà. L'Australie, bah, j'y suis allée 3 fois, enfin 2 fois à moto et puis la 3e en reportage en voiture. Et puis j'ai fait beaucoup de petits voyages pour des reportages en France, en Europe, etc.
En tout cas, vous avez énormément bougé pendant une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années même. Qu'est-ce que vous avez senti du monde ?
Qu'est-ce que j'ai senti du monde ? Qu'il me fascinait, que j'ai surtout appris que j'étais française parce que c'est une évidence que je sois française puisque je suis en France. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est quand je suis dans un autre pays que brusquement je me rends compte que chez moi, il y a des odeurs, il y a des bruits, il y a des signaux, il y a des façons de se regarder quand on se croise dans la rue. Il y a des mots qui sont des plaisanteries, il y a des gestes, etc. Au fait, je suis complètement façonnée par ce qui m'entoure en France et dont je n'ai pas conscience. Et quand je suis dans des pays qui fonctionnent différemment, brusquement, je prends ça dans le nez et je me dis, mais bon, j'ai une identité qui n'est pas uniquement moi-je. J'ai une identité collective. Et donc ça, c'est un premier décapage. Et puis ensuite, quand je suis dans ces pays où tout est différent, les alphabets sont différents, quand on dit « je », on ne dit pas la même chose, tu es qui, toi ? Et on découvre qu'on a des choses en commun. Et il a fallu que je comprenne ça quand j'ai eu cet accident de voiture assez violent en 2012. Je me suis retrouvée dans un hôpital à Bobigny qui s'appelle Avicenne, où de nouveau je me suis retrouvée parmi des gens qui venaient du Maghreb, d'Afrique, de partout, qui étaient donc même français avec des racines différentes. Et on a eu le même émerveillement de partager des choses. Et c'est ce que... on communique par les racines. On communique par les racines. On est entre humains. Et on se reconnaît en tant qu'humain. Et ça, je ne l'avais pas compris. Moi, je suis bélier, je fais les choses, je les comprends quelquefois après. Il a fallu que j'attende 2012 pour mettre ça en termes clairs.
Mais pendant toutes ces années où vous étiez parti, beaucoup, est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir en décalage vis-à-vis de la France, de ce que vivait la France ou de ce que vivaient les gens que vous connaissiez en France ?
J'étais surtout... oui, ce décalage parce que dans ces pays... Bien souvent, on vit pour survivre. Dans ces pays, bien souvent, il y a une grande misère. Une de mes amies en Équateur, il y a eu un cancer dans sa famille. Ils ont remboursé pendant 8 ans. Moi, je suis passée 2 fois par la case. Ça m'a coûté 120 euros parce que j'ai pris une ligne de téléphone, point barre. On a un bien-être en France, même quand on est fauché. On a une protection, on a une inscription dans un pays qui est un pays encore en état de droit, où on peut faire un procès à l'État sans se retrouver assassiné dans un fossé ou en tôle pour terrorisme, etc. Je veux dire, tout ça, moi je l'ai mesuré quand j'étais dehors. Et quand je suis rentrée, vraiment, je me suis dit que j'ai un devoir de bonheur. J'ai pas le droit de pleurnicher, j'ai le droit de râler. Oui, ça, il faut, parce que ça fait avancer les choses. Ça ne veut pas dire qu'on vit, que tout le monde vit dans une merveilleuse... dans une merveilleuse jouissance d'être. Évidemment qu'il y a de la misère chez nous, évidemment qu'il y a de la dureté, évidemment tout ça. Mais quand on a été voir ailleurs, j'ai assez envie de dire merci.
Mais puisque vous parlez de râler, ça me fait penser à un extrait d'un de vos livres qui s'appelle « Et j'ai suivi le vent ». Et j'avais envie de vous lire cet extrait. Au fond, c'est idiot de faire le tour du monde. C'est idiot et à la limite, c'est dangereux. Idiot parce que j'ai vu trop de choses, trop vite, que j'ai touché à tout et que peut-être je n'ai rien compris. Dangereux, je le crois, car à traverser tous ces pays comme je l'ai fait, je les ai vécus comme un paroxysme de perception, de réaction. Un voyage passionnel qui m'a ébranlé. La première preuve en est que je suis revenue sans révolte.
Ah oui. C'est exactement ça, mais c'était des voyages...
C'est de vous en même temps, heureusement.
C'est des voyages passionnels parce qu'effectivement, j'ai rien compris. mais j'ai tout enregistré. Et l'avantage de vieillir, c'est qu'il y a cette banque d'images, de données, de sensations, de souvenirs que maintenant je range. Si vous voulez, mon travail maintenant, c'est de ranger mon monde et le monde. Donc, ranger le monde à travers mes livres de voyage, ce que je continue. Les questions que vous me posez, je vais rentrer chez moi, ça va me faire bouger la tête d'une manière extraordinaire. Parce que avec votre regard, vous me forcez à lire les choses différemment. J'ai commencé à travailler sur les plantes. À travers les plantes, je range le monde. Et je veux dire, quand, à chaque fois que je mets maintenant un oignon dans une recette de cuisine, je mets un petit morceau d'Afghanistan, parce qu'en travaillant sur les plantes, j'ai appris que l'oignon nous vient de là-bas. Donc mes voyages aussi, si vous voulez, rejoignent ce travail sur les plantes. Et puis avec Harmonie, j'ai travaillé pendant 4 ans sur les dieux grecs, sur un mythe grec.
Harmonie, c'est aussi un de vos livres, un de vos derniers livres d'ailleurs.
C'est c'est l'avant-dernier, qui est le mythe de Cadmos et Harmonie. J'ai passé 4 ans à reconstituer ce monde de l'Antiquité grecque, et de nouveau, ça met une cohérence dans mes racines.
On va en reparler avec vous, Anne-France Daudeville. Vous êtes l'invité de Chacun sa route jusqu'à 15h sur France Inter. Et pour poursuivre le chemin, on a choisi un duo. La voix de Moriarty, Rosemary Stanley, accompagnée par Dom La Nena. Ensemble, ils s'appellent Birds on a Wire. Nous voilà sur la place sur France Inter.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil, aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi se place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient, ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains, pour se donner la cadence, ainsi certains
Qu'est-ce que c'est beau?
C'est très joli.
Ah, oh, j'adore, j'adore.
La voix de Rosemary Stanley sur France Inter. C'est vrai que c'est très joli. Tous les jours, un petit peu après 14h30, pas mal après 14h30, c'est une parenthèse, un moment suspendu, voire votre ailleurs à vous, qui peut prendre mille formes. Si vous êtes né dans un département d'outre-mer et que vous vivez en métropole, si vous avez une révélation dans un espace que vous ne connaissiez pas, si vous avez un pied ici, un pied ailleurs, tout nous intéresse. Pour nous joindre, le répondeur de France Inter, 01 56 40 68 68, mon compte sur Twitter, Elofont, E-L-O-F-O-N-T, ou alors par mail, elodie.font@radiofrance.com. Aujourd'hui, c'est Emma qui nous raconte un moment ailleurs. Et figurez-vous, Anne-France d'Hauteville, qu'Emma est à moto.
L'une des histoires qui me marque le plus encore aujourd'hui se passe au Vietnam, où je suis avec Aurélie, qui est mon acolyte de voyage, avec qui j'ai parcouru le Japon, l'Australie et plusieurs pays d'Asie pendant plus d'un an. Et nous sommes aussi avec Samuel, son copain. Durant nos voyages, plusieurs personnes nous ont dit « Il faut absolument que vous alliez au nord, à Hajiang. Il y a une boucle à faire, absolument. » Hajiang, c'est une terre de minorité Hmong. Donc nous nous sommes exécutés. On roule dans un décor de montagnes émeraudes, des villages en bois avec des habitants aux vêtements très colorés, ce qui donne un contraste absolument sublime. Et très souriant aussi, ce qui est absolument un délice de conduire là-bas. Chaque jour est un émerveillement, vraiment. J'étais seule, tandis que Samuel et Aurélie étaient deux sur la moto. Et je dois admettre que j'aimais bien être seule dans ces paysages grandiloquents. Ça donnait vraiment un sentiment de liberté que j'adorais. Et voilà, c'est vrai qu'avec cet effet du vent ou même la pluie, on se sent vivant et avec quelqu'un derrière, c'est bien parce qu'on peut en rigoler, mais quand on est tout seul, c'est notre moment à nous qui est quand même particulier. On se sent un peu plus libre, oui. Et donc, c'était un virage. J'ai vu un troupeau de moutons avec au milieu un petit garçon assis et une poule sur ses jambes qu'il caressait très doucement. Et donc, j'ai ralenti pour vraiment observer cette scène. Et j'ai vu un sourire sur le visage de ce petit garçon et la poule qui avait l'air très tranquille, presque fermant à moitié les yeux. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, mais c'est ça le bonheur. Et vraiment, encore maintenant, je pense très souvent que le bonheur, ce sont juste ces choses simples que de regarder un paysage qui est beau, d'un petit moment un peu précieux, de regarder un oiseau qui boit. Et ça m'a fait encore plus vouloir tendre vers un mode de vie loin du consumérisme, loin de l'attachement au matériel et me recentrer plutôt sur un bonheur plus authentique, plus pur en fait. Plus vrai pour moi dans un sens. Enfin, je me suis un peu détachée de tout ce qui est matériel et c'est aussi l'avantage de voyager pendant 2 ans en sac à dos. Et ça m'a permis de me dire qu'il y a très peu de choses dont nous avons vraiment besoin en fait, de ce qu'on achète. Donc voilà, ce sont mes actes qui ont vraiment été affirmés par ce petit garçon.
Anne-France d'Hauteville, je vous voyais écouter ce témoignage. Je pense qu'il vous parle évidemment beaucoup.
C'est très joli ce qu'elle dit.
Loin de l'attachement matériel, ça a été votre cas pendant des années.
Bah, j'étais bien obligée, j'étais fauchée. Hein.
Et vous n'aviez plus de chez vous, surtout.
Non, j'ai eu cette chance extraordinaire. C'est que des amis d'amis, m'ont passé des maisons abandonnées, m'ont hébergé. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Vraiment. Et puis, quand j'ai commencé à plus travailler comme pigiste en presse, j'ai pu louer une maison. Et quand mes parents sont morts, ils m'ont fait ce cadeau de pouvoir m'installer dans ma maison à moi. Et vous voyez, toute ma vie, j'ai eu la phobie des serpents. Une peur effroyable des serpents. Vous me mettiez dans 8e étage avec un Norvège, j'étais prête à sauter par la fenêtre. Et quand j'étais pigiste pour psychologie, j'ai posé la question en disant « qu'est-ce que c'est qu'une phobie ?» Et on m'a dit « c'est une peur que tu t'inventes pour masquer une autre peur qui est tellement effroyable que tu ne peux même pas la nommer. » Eh bien, quand j'ai eu ma maison, ma peur des serpents a commencé à disparaître. Et ma terreur, pour quelqu'un qui a voyagé tout le temps, c'est de ne pas avoir un endroit à moi. Et cette année, il y avait justement un Orvet qui était dans le chemin devant ma maison. J'avais peur qu'il se fasse écraser. Je l'ai pris dans les mains et je l'ai posé un peu plus loin.
Mais non. Ah oui.
Donc vous voyez.
Ah, ça s'est vraiment effacé, votre terreur.
Absolument.
Vous avez votre chez vous depuis longtemps?
Depuis 92.
Ah oui, depuis quelques années quand même maintenant.
Oui.
Et comment vous recréiez ce chez vous un peu ailleurs, puisque pendant des années vous n'en avez pas eu? Est-ce que vous trouviez des rituels, des choses, des choses que vous faisiez pour vous sentir chez vous quand même quelques heures, même quelques jours?
Non, parce que c'était des maisons où j'installais mes affaires, où j'avais mon lit, ma table, ma chaise, ma cuisinière, etc., etc.
Ah oui, vous aviez quand même des affaires.
Ah oui, non, d'accord. Non, c'était pas du camping.
Parce que là, je vous imaginais avec votre sac à dos passer de maison en maison.
Non, ça, c'est là, je me serais tuée. C'est pas possible. J'ai besoin d'avoir un endroit où je peux écrire tranquillement, avoir de l'eau chaude, inviter les copains à dîner, etc. Non, non. Mais c'est vrai que j'ai vécu, par exemple, pendant 4 ans, je crois, dans 2 fois 13 mètres carrés au-dessus d'une gare. Et j'avais installé mes bandes dessinées sur une étagère et le premier train qui est passé, vouf, tout est parti, tout est sorti.
Ouais.
Mais c'était une maison de gardien d'une grande propriété et il y avait 4000 mètres carrés de jardin derrière et un château abandonné au milieu, par exemple, vous voyez.
C'est la liberté et en même temps, c'est pas la liberté, quoi, de ne pas avoir de chez soi comme ça.
La question de la liberté ne s'oppose plus dans ces cas-là. J'aime beaucoup le Yiking, qui est le livre de transformation des Chinois, et qui dit que la seule liberté de l'homme, c'est de reconnaître l'ordre du monde et d'accepter de s'y conformer. Voilà. Alors, quand on met la barre à ce point-là, on va plus s'enquiquiner parce qu'on a perdu les clés de la maison.
C'est sûr. Vous écrivez, dans La vieille qui conduisait des motos, vous écrivez « La tête voyage quand le corps se déplace ». Alors, évidemment, ça m'intéresse. Vous pensez à quoi quand vous êtes en chemin, Anne-France d'Hauteville?
Je pense pas. Je ne pense pas. J'ai toute une partie de mon cerveau qui est très très occupée par la route, parce qu'une moto c'est dangereux si on ne fait pas attention. Donc toute une partie de mon cerveau est presque dans un état animal où je regarde, où j'essaie d'anticiper, etc. Et puis, très bizarrement, il y a une partie du cerveau qui navigue à vide. Et c'est pendant ces moments-là où certainement mon inconscient fait des additions, construit des raisonnements que je ne ferais pas en conscience claire. Et ça, c'est une technique qu'on m'avait apprise quand je faisais la publicité. Tu n'arrives pas à trouver la solution à une campagne, tu dors dessus. Il faut compter sur l'inconscient. Et un jour, je faisais une parlotte sur les plantes, justement. Je ne fais pas des conférences parce que c'est en kikinant, je fais des parlottes sur les plantes. Et y avait un moine bouddhiste en robe safran. J'étais tellement étonnée que je suis allée le saluer à la fin et je lui ai raconté ce qui se passait sur mes motos, c'est-à-dire ce travail inconscient. Mais il me dit, c'est de la méditation.
C'est ce que j'allais vous dire. Je trouve que ça ressemble à de la méditation.
Ouais. Mais oui, mais je pensais qu'il fallait se mettre en lotus, avoir mal aux genoux. Enfin, pas du tout. On se met les fesses sur une moto, on passe en quatrième et on laisse rouler, point barre. C'est pratique.
Et vous avez déjà eu la sensation d'avoir des idées, des... Je parlais tout à l'heure d'épiphanies qui peuvent nous arriver quand on est ailleurs. Vous avez déjà eu cette sensation-là sur votre moto de vous dire oh, « Il m'arrive une idée, je pensais pas que je pouvais l'avoir ».
Non, parce que sur la moto, je ne suis pas en conscience claire en dehors de tout ce qui est la conduite. En revanche, quand j'écris, par exemple, vous voyez, je passe la journée à faire des trucs sans grand intérêt. Moi, je suis plutôt nocturne. Et quand je commence à écrire le soir, c'est déjà écrit. Ça veut dire que inconsciemment, j'ai construit ce que j'allais dire. J'ai eu un coup de fil de mon éditeur chez Payot pour le bouquin que je suis en train d'écrire, qui me dit « Oui, et d'ailleurs, vous dites ceci, et puis 6 pages plus loin, vous dites cela, et je trouve que c'est un formidable écho. » Mais moi, je me suis pas rendu compte. Je dis « Mais j'avais pas compris ça, je l'ai écrit. » Mais je pense qu'on ne fait pas assez confiance à tout ce travail inconscient.
Vous parlez du corps beaucoup et du voyage qui transforme physiquement. Alors évidemment, vous avez eu plusieurs accidents, mais vous parlez aussi de cette sensation de vitesse quand le corps se déplace vite. À quoi ressemble le corps quand il se déplace au-dessus des vitesses autorisées?
Ah, mais je ne vais jamais au-dessus des vitesses autorisées. Mais j'ai rêvé une fois que... qu'en allant à Paris sur une moto qui allait un peu vite, c'est un rêve, hein, bien entendu,
bien
c'est
entendu.
Pas vrai. et il y avait une voiture de gendarmes. Ils ont vu que j'étais une fille, donc ils ont commencé à accélérer, donc j'ai accéléré, et puis ils ont accéléré, et je me suis retrouvée à 170 en descendant sur le pont de Sèvres. Et quand vous êtes à 170 sur une moto, la pression du vent est tellement forte que vous sentez votre squelette. C'est-à-dire que les muscles autour du bras, la chair autour du bras, donnent la sensation de se ratatiner et je sens les os dans mes bras. Mes joues me rentrent dans le visage, j'ai jamais porté de casque intégral et je redeviens le crâne. Et puis, dans ce rêve, bien entendu, on s'est dit au revoir et moi je suis partie dans un autre sens et j'ai pas eu de patate.
C'est un rêve assez précis quand même.
Oh non.
On va écouter ensemble les Black Pumas, Old Man sur France Inter. Nous sommes ensemble comme tous les jours, c'est chacun sa route, jusqu'à 15h. Invité jusqu'à 15h sur France Inter. Anne-France Daudeville, vous avez vu beaucoup de pays dans le monde. Comment transmettre le voyage, la rencontre? On sait que c'est difficile de trouver les mots où on peut transmettre ce qu'on a ressenti.
Mais c'est ça le bonheur d'écrire. C'est-à-dire que en jouant sur les mots, sur les sons, sur la musique du texte, on fait passer des émotions qui sont pas forcément très intellectuelles, mais qui sont affectives. Et puis peut-être que c'est mon métier d'écrire et tout simplement de trouver le moyen de partager. Si on écrit avec sincérité, ça suffit pas. Il faut en même temps avoir du métier. C'est comme vous, quand vous faites une émission, vous choisissez vos mots, vous avez une façon de regarder qui fait qu'on se sent en confiance, qu'on a envie de parler. C'est un échange où on ne voit pas l'autre, mais où il est présent tout le temps, certainement.
Vous qui avez beaucoup voyagé, quel conseil vous donneriez à un jeune ou une jeune voyageur, voyageuse ?
De ne pas rouler vite sur les routes. Parce que on passe à côté de tout, c'est dangereux et on s'épuise. De pratiquer le qui tu es, toi, c'est-à-dire d'avoir de la curiosité. De ne pas s'installer chez les pauvres sous prétexte qu'ils vous ouvrent la porte parce que c'est un devoir d'hospitalité, mais ils vont se priver de l'essentiel pour vous recevoir. Nous, même fauchés, on peut s'offrir un camping ou un petit hôtel, etc. Il y a une espèce de romantisme de l'hospitalité que je trouve un peu détestable, de se régaler du monde, de se régaler des autres, d'être heureux.
Et j'ai lu que vous disiez cacher l'argent dans sa culotte.
Oui, alors deux choses. Effectivement, je cachais l'argent dans ma culotte. On m'avait toujours dit que j'allais me faire violer, mais faut pas rêver. Deuxième chose, quand vous passez la douane et que vous êtes une fille, ça prend du temps, on perd du temps et c'est idiot. Donc mettre un soutien-gorge sur le dessus du sac, vous voyez, quand on l'ouvre, on tombe sur le soutien-gorge, vous dites « Oh pardon !» et vous le mettez en dessous du pullover. Et comme ces gens ont toujours beaucoup de pudeur, et bien du coup, ils vous regarderont, ils s'excuseront et vous passerez la douane tranquillement.
Anne-France Daudeville, chaque jour, pour terminer chacun sa route, on fait le portrait d'une exploratrice, la même, toute la semaine. Et cette semaine, on raconte la vie de l'exploratrice française la plus célèbre, Alexandra David-Nel. Hier, on a parlé de son enfance, de ses premières envies de voyage. Anne-France Daudeville, si vous le voulez bien, je vous raconte la suite de la vie d'Alexandra David-Nel. Dès la fin du 19e siècle, Alexandra David-Nel se passionne pour le bouddhisme, bien avant qu'il n'arrive en Europe. Elle disait d'elle-même d'ailleurs qu'elle était sans doute la première bouddhiste de Paris. Elle est déjà allée en Inde, une fois, à la fin du 19e, justement, mais sa déception est d'abord assez forte. Elle ne trouve pas dans les premières semaines de son voyage la spiritualité qu'elle était venue chercher. Elle rentre chez elle au bout de quelques semaines, se promettant de revenir. Ce qu'elle fera, mais plusieurs années plus tard, et cette fois, elle s'éloigne de l'hindouisme pour aller chercher des réponses dans le bouddhisme. La voici donc qui arrive dans le nord de l'Inde, au Sikkim, un petit état himalayen rattaché à l'Empire britannique des Indes. Nous sommes en 1911, Alexandra David-Nel a 43 ans, démarre alors ce grand voyage de 14 ans qui va la rendre célèbre. Alexandra David-Nel est l'une des dernières à voyager dans un monde qui n'exige pas encore de passeport. Ce voyage, c'est d'abord une quête spirituelle. Sa soif de connaissance est si grande, sa volonté de connaître chaque recoin de la pensée bouddhiste, de discuter avec ses plus grands penseurs, de chercher une sagesse et une spiritualité sur laquelle fonder une société meilleure. À force d'échanges, Alexandra devient progressivement une experte, à tel point que des lamas viennent lui demander conseil. Elle sera, oui, la première femme lama de l'histoire. Parmi ceux qui lui demandent conseil, le prince et chef spirituel du Sikkim, elle accepte sa proposition de réformer le bouddhisme dans son pays en échange d'une rencontre avec le 13e Dalai Lama, en exil, ce qui est alors extrêmement rare. Elle est même la première européenne à le rencontrer, car oui, cette rencontre a lieu. Et quand elle le rencontre, elle ne se prosterne pas devant lui comme le veut la tradition. Mais le Dalai Lama l'écoute et ils échangent. Il lui conseille d'apprendre le tibétain, ce qu'elle fera. Elle rencontre alors le jeune Afur Yongden, âgé de 15 ans. Bien que très jeune, il est particulièrement lettré et déjà considéré par certains comme un Bouddha vivant. Avec Alexandra, ils vont très vite formidablement s'entendre. Il lui est présenté comme un serviteur, mais il sera bien plus. Il sera traducteur, co-auteur, cuisinier, organisateur de leurs multiples déplacements, confident. 15 ans plus tard, en 1929, Alexandra David-Nel l'adoptera officiellement. Il est pour elle un compagnon, un alter ego, un fils spirituel. Femme d'une grande sagesse, Alexandra David-Nel continue à se former. Et au cours d'une de ses excursions, elle rencontre le Gomchen de Lachen, un yogi qui a un très haut niveau spirituel, et elle lui demande d'être son élève. Il refuse, alors elle insiste, tous les jours. Elle revient le voir et l'interroge sur le bouddhisme, lui fait part de ses réflexions. Et un beau jour, miracle, il accepte. Miracle parce qu'elle est une étrangère, et de surcroît, elle est une femme. Et pendant 2 ans, elle va recevoir ses enseignements sacrés. Il la surnomme « lampe de sagesse ». Yongden séjourne avec elle dans cet ermitage himalayen où les conditions de vie sont très difficiles. Ils vivent à presque 4000 mètres d'altitude et pratiquent la méditation du matin au soir. Par exemple, Alexandra s'initie au tummo. C'est un art qui consiste à se dénuder en plein milieu des montagnes enneigées, à haute altitude, de tremper une serviette dans la rivière glacée, de s'en entourer et de la réchauffer avec son corps. En 1916, Alexandra franchit la frontière du Tibet sans autorisation. Elle va jusqu'à un grand monastère, elle rencontre un des grands personnages du bouddhisme tibétain. Sauf que les Anglais sont mis au courant et ils l'expulsent de Sikkim. Sauf que c'est mal la connaître de penser que cela pourrait la bloquer dans son élan. Son objectif est très clair, elle veut être la première européenne à fouler le sol de Lhasa, la capitale sacrée du Tibet. Je la voulais et à n'importe quel prix, je l'aurais. La suite, demain. Anne-France Daudeville, cette émission s'appelle « Chacun sa route ». Chacun sa route, chacun son chemin. Quel message passer à votre voisin ?
Tiens ta droite, nom de Dieu !
C'est parfait. C'est parfait, c'est peut-être un des messages les plus forts de l'été. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, Anne-France d'Hauteville. Chacun sa route, épisode 32, revenez demain. Demain, on va partir sur les traces d'un espion. Oui, oui, c'est un autre genre de voyage. Et puis, nous prendrons des nouvelles des coraux et nous essaierons de comprendre comment nous pouvons nous en inspirer pour construire un monde réel de demain. Merci à Céline Dubois, Louise Cognard, Thomas Omaro et Claire-Sophie Collet qui ont préparé cette émission. Merci aussi à la doc d'actu de Radio France qui, depuis le début de l'été, nous aide pour les portraits d'exploratrices et notamment cette semaine, Patricia Miura. C'est avec vous, auditeurs, que l'on se quitte tous les jours un souvenir musical lié au voyage. Faites comme Léo aujourd'hui, appelez le 01 56 40 68 68.
Un souvenir que j'ai de départ de voyage, c'est le parking de la Petite Hollande à Nantes. On avait dormi là avec Bruno dans son petit camion transformeur Volkswagen. Et puis s'est fait réveiller par la police qui nous a demandé de bien gentiment de dégager. Et Bruno, il a mis à fond la chanson Les Grands Voyageurs d'Alain Bachoum. Et puis on a taillé la route et on allait finir la nuit sur une plage à Noirmoutier qui s'est révélée être une plage naturiste, mais ça on le savait pas.
Les Grands Voyageurs laissent dans le cœur des ardoises